Entre manifestations vidéo explicatives pour améliorer son impact, pétitions, le climat est sur toutes les bouches et surtout dans tous les esprits.
Mais est-ce qu'à notre échelle individuelle, on peut vraiment faire quelque chose? On peut inverser la tendance? Ou alors, est-ce qu'il faut compter sur le changement venu des industries?
Nous sommes ce matin avec Soren Erkman, écrivain scientifique responsable du groupe d'écologie industrielle à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Bonjour.
Bonjour.
Vos travaux portent sur l'écologie industrielle. L'écologie industrielle, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une expression un peu bizarre, hein. On dirait que c'est une contradiction dans les termes de mettre ensemble écologie industrielle. En fait, il faut bien voir ce que ça signifie, c'est un nouveau domaine à la fois scientifique et pratique qui est apparu il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc ici, le terme écologie renvoie à la science de l'écologie, donc à l'écologie scientifique. Et l'écologie, on pourrait la définir comme étant la science qui étudie la dynamique d'évolution des systèmes vivants sur Terre. Donc c'est vraiment ici l'écologie scientifique, comment fonctionnent les écosystèmes. Et puis alors industriel, souvent est très mal compris, parce que ici industriel désigne la société industrielle dans laquelle nous vivons depuis environ 2 siècles, depuis ce qu'on appelle l'émergence de la révolution industrielle. Et donc quand on dit industriel, ça désigne toutes les activités dans le système économique particulier qu'on appelle le système industriel. Donc c'est pas seulement l'industrie au sens étroit, par exemple les aciéries, les cimenteries, etc., mais c'est aussi et tout autant l'agriculture, par exemple, qui est sans doute la composante du système industriel qui a le plus d'impact sur l'environnement, mais aussi les loisirs, les services, le tourisme, les soins de santé, la cosmétique, tout ce qu'on veut. En gros, toutes les activités qui ont lieu dans le système industriel, y compris, évidemment, écouter une émission de radio, qui est une activité hautement industrielle de ce point de vue-là.
Et qui consomme, et qui a une empreinte carbone importante ?
À toutes les activités humaines ont d'une manière ou d'une autre une certaine empreinte carbone. Et du reste, tout ce qui touche au système de communication, télécommunication, que ce soit téléphonie, radio, GPS, tout ça, ont forcément une empreinte carbone parce que tous ces systèmes dépendent très très lourdement du système électrique, donc de l'approvisionnement électrique. Et dans la plupart des pays du monde, l'électricité a une certaine composante, souvent forte, qui provient du carbone fossile, puisqu'on utilise du pétrole, du charbon ou du gaz pour produire cette électricité. Et en Suisse, on utilise quand même une certaine quantité d'électricité qu'on importe de l'étranger, notamment d'Allemagne. C'est ce qui fait que, comme en Allemagne, on produit toujours passablement d'électricité à partir de charbon, et puis de plus en plus à partir de gaz. Donc, il y a effectivement une empreinte carbone derrière chaque recherche que vous faites sur Google, derrière toute l'utilisation d'Internet, derrière le téléphone, bref, tout ce qui touche à la communication et qui consomme d'électricité.
Alors, le constat que vous posez, c'est qu'on n'arrive pas à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos efforts ne servent à rien ?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, bien sûr que ce qu'il faut, ça c'est le but idéal, l'objectif, c'est diminuer les émissions. Et en plus, pas de manière anecdotique. Il s'agirait vraiment de les diminuer de manière drastique. Ce qui pose évidemment des problèmes du point de vue du système économique et sociaux. Donc, si on part du constat que depuis maintenant 25 ans, depuis que la Convention sur le climat est entrée en vigueur, qu'on a fait des efforts et des conférences à n'en plus finir pour essayer de faire baisser les émissions, et que non seulement ces émissions ne baissent pas, mais continuent d'augmenter, donc ça veut dire qu'il faut voir les choses sous un autre angle, même si en parallèle on continue à chercher à diminuer les émissions, ça c'est très bien, mais on ne s'imagine pas que ça va suffire. D'où la nécessité de regarder d'autres approches en parallèle à la réduction des émissions.
L'idée, c'est quand même aussi d'arrêter de culpabiliser les citoyens, mais de pointer du doigt les entreprises, parce qu'on a parfois l'impression que les entreprises ont un impact beaucoup plus important que les citoyens, alors que finalement, c'est le citoyen qu'on pointe du doigt. Est-ce que là aussi, les choses doivent un peu changer ?
Oui, alors il y a tout un discours moralisateur et voire même souvent culpabilisateur sur le citoyen individuel, même s'il faut bien voir qu'il est très localisé. Ça concerne l'Europe, ça concerne pas du tout des pays comme l'Inde ou la Chine. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Europe et en partie l'Amérique du Nord, il y a effectivement un discours qui s'adresse aux citoyens individuels. On s'adresse aux citoyens isolés et à sa responsabilité. Et comme s'il était capable de porter tout le poids de la misère du monde sur ses épaules. Et donc, premièrement, c'est évidemment contre-productif. contre-productif parce que ça finit par décourager les gens, parce qu'on leur fait peser une responsabilité sur eux, mais ils n'ont pas vraiment les moyens d'endosser cette responsabilité et donc de changer les choses tout seul. D'autre part, ce que les sciences sociales ont bien montré depuis quelques années, c'est que la bonne focale, c'est sans doute pas le citoyen individuel, mais c'est les groupes, c'est les pratiques sociales à l'échelle des groupes. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer les citoyens d'un côté et puis les méchantes entreprises de l'autre. Il s'agit de raisonner en termes de chaînes de production et de consommation, et surtout de raisonner sur ce qui se passe avec les infrastructures. Je vous donne un exemple. On vous dit, il vous faut débrancher vos télévisions, vos appareils, parce que vous consommez même quand vous êtes en veille, etc., etc. Bon, ça c'est bien. Mais ce que le citoyen, le consommateur final ordinaire, il n'a pas de prise sur le fait que le réseau électrique, il est structuré en réseau à très haute tension, réseau à moyenne tension, réseau à basse tension. Tout ça, ça relève vraiment d'une politique d'infrastructure qui échappe complètement aux citoyens ou aux consommateurs en bout de chaîne. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut évidemment essayer de faire des efforts raisonnables sans décourager les gens à l'échelle individuelle, mais en même temps, il faut vraiment raisonner pour optimiser les grandes infrastructures, voire les modifier le cas échéant.
Jamais 203. Format A3.
Et nous sommes de retour avec notre invité, Soren Erkman, écrivain scientifique, responsable du groupe d'écologie industrielle à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne.
Alors, on parle d'écologie industrielle, Soren Erkman. Qu'est-ce qui vous attire dans ce thème? Un thème que vous traitez finalement depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous a titillé? Qu'est-ce qui vous a donné la puce à l'oreille en vous disant, il y a 20 ans peut-être, un peu moins, là, il y a quelque chose de très important à soulever.
Alors, d'abord, j'aime bien les choses assez compliquées. Et ce qui me plaît bien dans
toute cette thématique réussi.
Du développement durable, exactement, dans toute la thématique du développement durable et de l'environnement, comme ça touche à tous les domaines possibles et imaginables de l'activité humaine et économique en particulier, c'est difficile de trouver un sujet plus compliqué, mais c'est justement, à mon avis, ce qui le rend largement intéressant. Et à la fin des années 80, j'étais à l'époque stagiaire journaliste scientifique à l'Hebdo, et ensuite j'avais créé la rubrique scientifique du journal de Genève, j'avais travaillé à la télévision. Petit à petit, j'ai réalisé qu'il se passait vraiment quelque chose d'important autour de toute cette thématique du développement durable, que c'est pas juste un petit secteur comme ça nouveau qui se développe, on parle vraiment d'une modification en profondeur, d'une évolution en profondeur de tout le système économique. Et puis petit à petit, je me suis pris d'intérêt pour ce système économique très particulier qu'on appelle le système industriel. Si vous regardez l'histoire de l'humanité au cours des 20 000 ou 30 000 dernières années, les humains ont inventé énormément de systèmes économiques très différents et souvent du reste très sophistiqués, qui ont duré très longtemps du reste, certains pour certains d'entre eux. Mais il y en a quand même un qui est très particulier, c'est celui dans lequel nous vivons, qui est tout jeune, il a environ 200 ans. C'est rien du tout comparé à d'autres systèmes économiques. Donc petit à petit, je me suis pris de plus en plus d'intérêt pour le fonctionnement de ce système socio-économique très spécial, qui fait des choses remarquables, qui fait aussi des choses beaucoup moins remarquables, justement les problèmes environnementaux. Et je trouve que c'est un système vraiment intéressant à étudier et éventuellement à faire évoluer.
Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages comme « Vers une écologie industrielle » ou encore « Comprendre la transition énergétique », entre autres. L'idée, on l'a un petit peu vu en première partie d'interview, c'est de s'adapter à cette urgence climatique et non d'essayer d'inverser la donne.
C'est-à-dire qu'il faut faire les deux. Simplement, il ne faut pas se bercer d'illusions. Maintenant, quoi que l'on fasse, prenez le cas de la Suisse. Si la Suisse, ou même, je dirais, à l'échelle mondiale, on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre demain, ce qui évidemment est impossible, mais admettons, il n'empêche que, vu l'inertie du système climatique, on le compare souvent à un grand paquebot, à partir du moment où il veut tourner pour éviter un écueil, il lui faut un bon moment pour le faire. Donc c'est exactement la même chose. Le changement, le système climatique, il est lancé sur la base des dizaines de milliards de tonnes de gaz à effet de serre qu'on a injecté depuis des décennies. Et donc, quoi que l'on fasse maintenant, on va être confronté au changement climatique qui a déjà commencé. C'est pour ça que la toute première priorité, c'est évidemment de se préparer à s'adapter à ces changements climatiques. Très concrètement, ça veut dire redimensionner, par exemple, tout ce qui concerne l'évacuation des eaux dans les villes, redimensionner les chenaux dans les maisons, les immeubles, puisqu'on sait qu'on aura de plus en plus des pluies qui peuvent être très violentes et très brusques, etc., etc. Évidemment, refaire les routes dans toutes les régions montagneuses à cause de la fonte, à cause de la disparition du gel en altitude qui rend les terrains plus friables, etc. Donc, en priorité, de toute façon, on doit s'adapter. Maintenant, Ce qu'on essaye de faire pour inverser la tendance, il faut bien voir qu'on n'en récoltera les fruits que dans plusieurs dizaines d'années. Donc il faut le faire, évidemment, il ne faut pas attendre de le faire. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'en diminuant maintenant nos émissions de gaz à effet de serre, nous allons empêcher le changement climatique. Il est déjà là et il va se produire. Et ça, c'est lié à l'inertie du système climatique. Donc c'est les deux qu'il faut faire, mais sans se faire d'illusions.
Alors, Soren Erkman, l'urgence climatique, elle est sur toutes les lèvres, ou presque, parce qu'il y a quand même toujours des gens qui ne croient pas au changement climatique, qui refusent de voir l'évidence. Vous avez envie de leur dire quoi, ces gens-là ?
Moi, je pense d'abord qu'il ne faut surtout pas les mépriser, il ne faut surtout pas les écarter, il faut simplement prendre le temps de leur répondre, dans la mesure, je dirais, où ils sont de bonne foi. Alors évidemment qu'il y a des gens, mais franchement, en Europe, il y en a vraiment très très peu. C'est plutôt dans des contextes très particuliers, notamment aux États-Unis. Enfin, il y a très peu de gens aujourd'hui qui nient de manière, je dirais, obstinée et catégorique l'évidence. Donc, mais de toute manière, je pense qu'il ne faut surtout pas les écarter et les mépriser, parce que alors ça leur donnera le sentiment qu'ils ont raison et qu'il y a une conspiration, et qu'il faut prendre le temps simplement d'argumenter, de leur expliquer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de gens où ça ne sert à rien d'argumenter, de toute façon, ils ne veulent pas y croire. Alors d'accord, ben, très bien, ben, on va de l'avant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le dossier climatique est très compliqué, il y a toujours beaucoup de points de zone d'ombre, d'incertitude, et il ne faut pas les cacher. Même si les grandes tendances sont bien connues. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble important, c'est de ne pas mépriser les gens qui se posent des questions et qui éventuellement ont des doutes. Ils ont le droit à ce qu'on leur réponde de manière argumentée.
Les jeunes qui sont dans la rue pour manifester actuellement, pour sauver la planète, j'imagine que vous voyez ça d'un bon œil, parce qu'on est en même temps un engagement civique, politique, et pour la planète. C'est un signal important pour l'avenir, selon vous, mais ça ne suffira pas ?
En tout cas, ça c'est clair pour moi que ça ne suffira pas, mais enfin c'est un bon signal, c'est un signal positif. Il me semble qu'il y a une belle énergie positive dans tous ces mouvements. Mais en même temps, ce que je dirais pour ces jeunes... Alors d'abord, ça me fait assez plaisir, puisque j'ai moi-même essayé, en publiant beaucoup d'articles dans la presse romande, à la fin des années 80, début des années 90, d'attirer l'attention sur cette question climatique. À l'époque, avec un succès, je dirais, limité, puisque franchement, ça n'intéressait pas grand monde, alors que c'était l'époque où on aurait dû agir. Ça, c'était encore le bon moment. Bon, alors... Mieux vaut tard que jamais, c'est très bien, les jeunes se mobilisent pour le climat, certainement que c'est utile, mais il ne faut pas de nouveau s'imaginer que ça va résoudre le problème comme par un coup de baguette magique. Mais enfin, c'est certainement une bonne énergie, on va dans une bonne direction. Cela dit, je pense que ce que les jeunes pourraient faire aussi, c'est rester attentifs au fait que non seulement on a un problème avec le climat, mais en plus on a un problème avec des gens qui instrumentalisent la question du climat à d'autres fins, qui peuvent être idéologiques, politiques, personnelles, etc. etc. Alors on parle souvent des gens qui nient le changement climatique, c'est bien, on les critique à juste titre, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des gens de l'autre côté qui profitent de la menace climatique pour avancer leur propre agenda. Et là aussi, je recommande aux jeunes d'être attentifs et de développer leur esprit critique sur cette thématique-là.